Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 28 mars 2024. Il y a 763 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Slava Ukraine. Героям слава.
Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
Dans cet épisode, on va parler des attaques sans précédent contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, du mal-être des soignants confrontés chaque jour à la guerre et d'un pouvoir russe qui s'entête à faire de Kiev le commanditaire d'un attentat commis par l'État islamique. Mais avant tout cela,
okay, ça, c'est la batterie de secours.
On va dire au revoir à Camille Magnard.
Salut Isabelle.
Qui vient de passer un mois en Ukraine.
Je suis en train de terminer de ranger un petit peu l'appartement où on travaille, où on monte tous les sujets, où on fait les directs la plupart du temps, quand on n'est pas sur le terrain en reportage. Notre petit camp de base ici, où on se relaie les uns les autres.
Ça, il faut surtout que ça reste là.
C'est Agathe Mahuet qui va venir prendre le relais dans quelques jours. Là, moi, je file ce soir avec le train de nuit. Donc le but, là, dans les heures qui restent, c'est de laisser l'espace en bon état parce qu'il y a pas mal de branchements. Franchement, si vous voyez ça, c'est un sacré bazar.
Donc on va le laisser là pour Agathe. Voilà.
Un dernier dégagement d'Andrei Lounine. Et a priori, le coup de sifflet final, le coup de sifflet de la qualification pour l'Euro 2024. Pour tout un peuple, l'Ukraine. L'Ukraine qui était menée 1-0 dans cette finale. C'est fait, l'Ukraine ira à l'Euro 2024.
Je pars sur une impression un peu particulière parce que là, je viens de tourner ce matin un sujet sur la qualification de l'équipe de foot, l'équipe nationale ukrainienne pour l'Euro 2024.
C'était face à l'Islande.
Qui va se dérouler au début de l'été en Allemagne. Et les gens m'ont beaucoup parlé de la victoire et comme quoi la victoire, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, c'est bon à prendre par les temps qui courent. C'est vrai que la perspective de victoire ces derniers temps, eh ben, il faut dire qu'elle est un petit peu plus incertaine. C'est un mot qu'on entend tout le temps. Mais c'est devenu un mot un peu creux, c'est triste à dire. Les Ukrainiens se sont installés dans cette idée que la guerre va durer. Et moi, l'impression que j'en garde, c'est vraiment un moment vraiment particulier que j'ai eu avec les bons amis que j'ai ici en Ukraine, avec qui j'ai dîné hier soir. Et on se redisait ce qu'on se dit toujours depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire après la victoire. Les Ukrainiens adorent imaginer les vacances qu'ils peuvent pas prendre depuis 2 ans. Où est-ce qu'ils vont aller à l'étranger? Où est-ce qu'ils vont aller? Ah, après la victoire, on ira manger des barbecues en Crimée. Et puis là, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, après la victoire, on va aller en Crimée et passer des bonnes vacances. Et puis après ça, il y a eu un gros blanc, il y a eu un ange qui est passé dans la pièce, tout le monde a baissé les yeux et regardé ses pieds, et on savait plus quoi dire, et c'est pas des choses qu'on vivait il y a quelques mois encore. Aujourd'hui, on sent que la victoire, elle est plus incertaine, et c'est ça qui travaille un peu tout le monde. Et donc, pour revenir à notre sujet sur le football, chaque perspective de victoire, chaque démonstration de force de l'Ukraine est chérie par tout le monde ici, comme un bien précieux pour se remotiver et reprendre le moral. Voilà, je te laisse là-dessus. Puis j'ai terminé de faire mon sac parce qu'il y a encore pas mal de boulot. Salut, à bientôt à Paris.
Ces derniers jours, et Camille l'a vécu lundi, les frappes ont redoublé d'intensité sur l'Ukraine. À Kiev, l'Académie des arts décoratifs est désormais réduite à un tas de gravats, détruite par les débris des missiles hypersoniques Zircon, les plus modernes et les plus destructeurs que compte l'arsenal russe. Kharkiv a aussi été visé par des bombes de forte puissance, larguées en plein après-midi sur des immeubles d'habitation, des jardins d'enfants ou des centrales électriques. Le 22 mars, le pays a vécu l'attaque la plus violente sur ses infrastructures énergétiques depuis le début de la guerre.
Il n'y a plus de courant ni de chauffage. L'approvisionnement en eau est également perturbé.
Valérie Crova, lundi dernier, sur France Info.
Kharkiv n'est qu'à 30 km de la frontière russe, ce qui la rend très vulnérable. D'autres villes ukrainiennes ont été visées, notamment Odessa, au bord de la mer Noire, où l'électricité est également en partie coupée. Dans la région de Zaporijjia, c'est la plus grande centrale hydroélectrique construite à l'époque de l'Union soviétique qui est hors de service. Elle a été touchée par 8 missiles. Au total, l'armée russe a lancé 90 missiles et 60 drones Shahed de fabrication iranienne sur plus de 130 installations, ce qui fait dire au ministre de l'énergie ukrainien que le but de la Russie était d'essayer d'imposer une nouvelle fois un blackout massif du système énergétique du pays.
Selon l'opérateur Ukrenergo, les dégâts se montent à environ 100 millions d'euros rien que sur les lignes à haute tension. Ce lundi 22 mars, le même jour, pour la première fois, le porte-parole du Kremlin admet publiquement que la Russie se trouve en état de guerre, un mot qui, depuis 2 ans, conduit en prison tous ceux qui ont le courage de l'écrire ou de le prononcer.
La confusion ce soir à Moscou. Et l'horreur.
Les faits se seraient produits au Crocus City Hall, une salle de concert située au nord-ouest de la capitale russe.
Plus de 100 personnes ont par ailleurs été blessées. Le toit de la salle où a eu lieu cette fusillade s'est effondré. Le gouvernement russe dénonce un attentat terroriste sanglant. La présidence ukrainienne affirme qu'elle n'a rien à voir avec cette fusillade.
143 morts, c'est le dernier bilan de l'attentat perpétré le 22 mars contre le Crocus City Hall. Et à l'heure où vous nous écouterez, ce chiffre aura peut-être encore augmenté. 8 assaillants à ce jour ont été arrêtés. La branche afghane de l'Organisation de l'État islamique revendique l'attentat. Mais tout l'appareil d'État russe, Vladimir Poutine en tête, s'obstine à désigner l'Ukraine d'abord comme responsable direct, puis comme le commanditaire de cette attaque, comme nous l'explique le correspondant de Radio France à Moscou, Sylvain Tronchet.
Plus de 48 heures après la revendication du groupe État islamique, Vladimir Poutine a donc prononcé IGIL, l'acronyme qui désigne Daesh en russe. Le chef du Kremlin est même allé jusqu'à admettre que les membres du commando étaient des islamistes radicaux. Cela devrait, en toute logique, suffire à désigner le coupable, mais non. Dans la minute qui a suivi, le président russe a immédiatement retourné le viseur vers Kiev.
Nous savons par qui cette atrocité contre la Russie et son peuple a été commise. Nous voulons savoir qui l'a commandité. Et la question se pose, à qui cela profite-t-il? Cette atrocité ne peut être que le maillon d'une série de tentatives menées par ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays aux mains du régime néo-nazi de Kiev.
Dans sa logique toute personnelle, Vladimir Poutine a également noté que si les États-Unis désignaient eux-mêmes Daesh, c'était sans doute pour protéger le régime de Kiev. Kiev qui serait, selon lui, en train de créer de nouvelles jeunesses hitlériennes, les islamistes, les néo-nazis, les Ukrainiens. Voilà donc la coalition des ennemis de la Russie qu'a désigné le maître du Kremlin. Mais son porte-parole l'a promis hier. Il se fiera au résultat de l'enquête.
Pour l'instant, cet événement qui reste entouré de multiples zones d'ombre alimente surtout la machine à désinformation. Les théories les plus fantaisistes circulent à la fois sur les réseaux sociaux et dans les cercles du pouvoir russe. L'Ukraine et ses alliés ont évidemment dénoncé ces derniers jours l'absurdité des arguments utilisés par Moscou, aveuglé par sa confrontation avec l'Occident. La question aujourd'hui est de savoir combien de temps le Kremlin va s'enferrer dans un récit qui peut servir à justifier une intensification de la guerre contre l'Ukraine, mais auquel personne ne croit. Dans la nuit du 23 au 24 mars, l'armée polonaise et l'OTAN ont littéralement retenu leur souffle, car pendant 39 secondes, un missile russe a traversé l'espace aérien polonais à 800 km/h avant de rebifurquer vers l'Ukraine sans être abattu. Les Russes cherchaient à viser Lviv. L'ambassadeur de Russie à Varsovie n'a pas répondu à la convocation que lui avait adressée le ministre des Affaires étrangères polonais. Sur le front, Kiev a réussi à endommager 2 navires de débarquement de la flotte russe stationnée en Crimée, ce qui fait un total de 26 navires et un sous-marin mis hors service, selon les calculs de l'état-major. Écoutez ce qu'en disait le général Jérôme Pellistrandi sur l'antenne de France Info.
Il faut considérer que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la marine russe subit humiliation sur humiliation en mer Noire. Le paradoxe est que l'Ukraine n'a plus de navires, de marine et qu'elle est capable de mettre à bas la marine russe. Donc c'est une nouvelle humiliation pour la Russie qui n'arrive pas, en quelque sorte, à défaire l'Ukraine de ce côté-là. Par contre, il est vrai que la situation sur le front terrestre reste très délicate pour Kiev.
Et sur le front terrestre, pour combattre les Russes, l'armée ukrainienne a besoin de toujours plus de drones. La ville de Truskavets, dans l'ouest du pays, a trouvé une façon très originale de recueillir de l'argent pour acheter ses appareils. Elle a demandé à de jeunes écoliers de faire la chasse à la littérature russe pour ramener du papier, des tonnes de papier qui seront ensuite revendus. C'est un reportage de Camille Magnard et Yachar Fazilov.
S'il vous plaît.
Une petite ville thermale des Carpates, 3 écoles en lice et un objectif, récolter en 4 jours un maximum de papier à recycler. De préférence, imprimé en langue russe, l'opération a été sobrement baptisée « littérature ennemie contre drone ».
On a commencé à collecter des papiers usagés, mais le premier jour, on n'en trouvait pas beaucoup. Quelques livres, des vieux carnets et des cartons. Mais on n'a pas baissé les bras.
Les jours suivants, on a fait le tour de tous les endroits possibles dans notre ville. Les magasins, les bureaux de poste et les bibliothèques des centres de cure.
Danilo et Anna font partie de la classe gagnante. 2,5 tonnes de papier récolté, dont une bonne partie d'ouvrages russes.
On a libéré nos bibliothèques de la littérature russe. Ça fait de la place pour nos auteurs et nos livres ukrainiens.
Les Russes détruisent notre pays, ils tuent nos citoyens, rasent nos villes. On ne perdra rien à jeter leurs livres et à ne plus jamais les lire.
Même la prof de littérature, Lesia Kravchuk, en a profité pour faire du ménage dans sa bibliothèque. Les classiques russes, elle les a étudiés, elle peut encore les citer de tête, mais c'est la guerre.
Ça a été douloureux, bien sûr, mais le plus douloureux, c'est quand nos envahisseurs occupent nos villes, la première chose qu'ils font, c'est brûler nos livres, notre histoire et tout ce qui est lié à l'identité ukrainienne. Ça fait mal. Ça
boulit. L'opération a été proposée aux écoles de Truskavets par un groupe de volontaires dont fait partie Ivan Jouk, convaincu lui aussi que c'est une guerre culturelle linguistique qui oppose Russes et Ukrainiens.
Cette action était symbolique du fait qu'on peut battre l'ennemi avec ses propres armes et la littérature russe a toujours été une arme pour nous dominer. On a retourné l'arme de l'ennemi contre lui en la transformant en drone.
À l'arrivée, 2 drones d'attaque ont pu être achetés et offerts à l'armée ukrainienne pour 12 tonnes de papier collectés revendus à une entreprise locale qui les a recyclés, ça ne s'invente pas, en papier toilette.
Ce mercredi, après de longues tractations, les représentants des 27 se sont mis d'accord pour réduire un peu le volume de produits agricoles détaxés qui arrivent d'Ukraine et pénalisent les agriculteurs européens. Sont concernés poulet, œufs, sucre et dans une moindre mesure, miel, maïs, avoine. En gros, une fois qu'on aura atteint une certaine quantité, qui correspond à la moyenne de ce que l'Europe a importé en 2021, 2022 et 2023, ces produits seront de nouveau automatiquement taxés comme ils l'étaient avant la guerre. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Correspondante de Radio France à Bruxelles, ça représente quand même un gros manque à gagner pour Kiev.
La Commission nous dit hier que c'est à peu près 330 millions d'euros de moins pour Kiev. C'est tout de même une somme pour Kiev qui est importante. Évidemment, ça ne changera pas le cours de la guerre. Mais en Ukraine, on estime que c'est un mauvais signal.
Il y a un petit paradoxe aussi, parce qu'on entend d'un côté les Européens qui disent « on fera tout le plus longtemps possible et le plus possible pour aider l'Ukraine ». Et en même temps, dès qu'il s'agit de parler d'argent et de déstabilisation des marchés agricoles, on est prêt là à prendre des mesures qui pénalisent Kiev.
Alors, c'est pas tous les pays, hein. Finalement, quand on regarde un petit peu l'état des forces, c'est vraiment les pays les plus impactés au niveau agricole. D'abord, la Pologne et certains pays limitrophes de l'Ukraine, qui a aussi beaucoup de petites exploitations. Ils ont face à eux un monstre agricole, l'Ukraine. Faut avoir en tête que les exploitations céréalières, elles sont parfois 100 fois, 1000 fois plus importantes que nos grosses exploitations céréalières à nous. Donc, pour les Polonais, c'est encore pire, parce qu'ils ont des plus petites fermes. Et pour eux, il y a une limite, entre guillemets, à cette solidarité. Il faut trouver un juste équilibre entre solidarité et trop forte déstabilisation de nos marchés.
Alors, on n'a pas encore parlé du blé. 288 000 tonnes importées en Europe avant la guerre, 6 millions l'an dernier. Donc, lui aussi, forcément, il va être limité. Ça, c'est un gros enjeu.
Là où c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est qu'on ne va pas laisser non plus le blé continuer à entrer sans aucun mécanisme de protection sur nos marchés. D'abord, la Commission est déjà intervenue ces derniers mois pour aider la Pologne ou les pays les plus déstabilisés en direct. Et dans le compromis d'hier soir, il y a quand même un mécanisme qui permettra à la Commission d'intervenir si elle observe une déstabilisation trop forte des marchés, si elle observe des flux trop importants par rapport à ce qui est acceptable. Donc, il y a quand même un mécanisme. Mais la France, la Pologne, les syndicats agricoles veulent que ce mécanisme soit automatique. En gros, ils ne font pas totalement confiance à la Commission, pour le dire clairement, pour déclencher ce mécanisme. Donc oui, il y a une très forte pression pour faire encore plus. Le souci, Isabelle, c'est que le temps presse. Hein. Il faut que cet accord de renouvellement sur les droits de douane soit adopté dans les mêmes termes par le Conseil, donc les États, et par le Parlement avant début juin. Sinon, le risque, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on remet des droits de douane sur toutes les importations en Europe des produits agricoles. Et là, pour Kiev, c'est une catastrophe.
Si ça marche pas, ça veut dire que tout tombe et qu'on revient à l'état initial.
Absolument, à l'accord d'association de 2016 avec l'Ukraine, où en fait on taxe l'entrée de tous leurs produits. Personne ne veut ça ici, hein, soyons clairs. C'est aussi pour ça que les diplomates se donnent autant de mal pour trouver un accord. Mais il y a un point qu'on n'a pas en tête, c'est qu'on entend beaucoup les pays qui, pour des raisons, on va le dire, électorales, on est en campagne, on a peur d'une vague d'extrême droite aux élections européennes. Hein, donc en France, en Pologne, évidemment, on essaie de rassurer les agriculteurs, on l'a vu ces dernières semaines, mais il y a aussi des États qui disent, non mais attendez, nous, on refuse que notre marché soit fermé ou limité aux produits ukrainiens, parce que, un, il faut continuer à les aider, c'est important. Deux, il y a aussi des intérêts nationaux. L'Espagne, par exemple, qui a eu une grande sécheresse, a perdu une grande partie de ses récoltes de blé, elle a besoin du blé ukrainien. Elle s'est opposée formellement hier au fait à ce qu'on mette le blé dans les mesures automatiques. Chacun défend aussi des intérêts, et chacun cherche le juste équilibre, comme je disais, entre on aide l'Ukraine, mais on fait quand même attention à nos marchés, en période électorale, très important.
Merci Angélique, et donc on verra ce qui change dans ce texte qui doit encore, on le rappelle, être examiné par les États et par le Parlement européen.
Bonsoir Isabelle, c'est Vitaly. Je voudrais commencer ma note vocale aujourd'hui pour toi.
Pour terminer cet épisode, on va retrouver Vitaly Kartamichev à Kiev. Vitaly a commencé par me raconter toute la joie que lui avait procuré la qualification de son équipe à l'Euro de football. On en a parlé au début de cet épisode. Il m'a aussi rappelé qu'à l'époque soviétique, tous les bons joueurs de foot étaient ukrainiens. Et puis, il a voulu parler de son nouveau job.
C'est un ONG américaine qui s'appelle Syrian American Medical Society. On soutient les hôpitaux dans la ligne de front en santé mentale pour le personnel médical qui souffre d'épuisement, de burn-out pendant leur travail. Parfois, ils sont débordés des opérations sur les blessés. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ont besoin de l'aide en santé mentale aussi. Et j'ai eu l'occasion de visiter et de rencontrer des docteurs pour les prisonniers de guerre russes qui sont traités s'ils sont blessés avant d'être retransmis en Russie. Évidemment, c'est très très difficile psychologiquement pour ces docteurs et ils ont besoin de soutien en santé mentale.
Lors de sa visite, Vitaly a aussi découvert qu'un grand nombre d'hôpitaux seraient incapables de faire face à un afflux massif de victimes.
L'héritage soviétique des hôpitaux, c'est que l'unité de soins intensifs sont situées parfois au sixième étage avec un seul ascenseur de service. Au cas où il y a une vingtaine ou une trentaine de blessés, on peut perdre beaucoup de temps avant de pouvoir les apporter de l'aide intensive. Ce qui m'a épaté dans l'un des hôpitaux, j'ai vu un ascenseur de service avec un opérateur d'ascenseur. C'était un homme très sévère qui travaille dans l'ascenseur et c'était un peu une touche d'humour. Mais je voudrais partager aussi l'impression que j'ai eue que ces infirmières et ces docteurs sont des vrais héros, parfois mal connus, mal renommés, mal honorés par notre société parce qu'ils travaillent derrière les lignes de front, mais ils font du travail énorme pour sauver les vies de nos combattants et de nos civils.
C'est la chanson qui va représenter l'Ukraine à l'Eurovision, première demi-finale le 7 mai à Malmö en Suède. Elle est incarnée par un duo féminin, la rappeuse Aliona Aliona et la musicienne Jerry Hale. Son titre, Teresa et Maria, fait référence à Mère Teresa et à la Vierge Marie, deux figures convoquées pour parler de l'amour de son prochain. La guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Camille Magnard et Yachar Fazilov, Valérie Crova, Sylvain Tronchet, Angélique Boin et Vitaly Kartamichev. Mise en onde, Ludovic Auger. Production, Isabelle Labéry. À jeudi.
C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.